France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
C'est presque devenu un genre en soi. Depuis des années, des anthropologues et même des philosophes partent en quête des animaux sauvages, suivant par exemple les traces des loups entre vallées et sommets de nos massifs montagneux. S'inscrivant dans une démarche encore plus latourienne, c'est-à-dire dans les pas même de Bruno Latour, c'est au cœur des dossiers administratifs et des montagnes de paperasse que s'est aventuré le sociologue Antoine Doré pour traquer le loup. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Bonjour Antoine Doré.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargé de recherche à l'INRAE et vous publiez aux éditions, aux presses universitaires de France, pardon, Politique du loup, faire de la sociologie avec les animaux. Des animaux, on en trouvait beaucoup dans une exposition Paris Animal, dont Léa Mosconi était la co-commissaire. Elle nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour évoquer ce travail et la présence des animaux dans la ville. Alors c'est plutôt à l'extérieur des villes qu'on va commencer, Antoine Doré, à parler du loup. Ça fait de longues années que vous le traquez, et comme je le disais en commençant, c'est pas tant les empreintes des loups, même si ça vous est arrivé d'aller sur le terrain, bien évidemment. On le voit rarement quand on est un humain, le loup. C'est plutôt dans le monde administratif, dans le monde politique en général, dans différentes instances d'ailleurs de ce monde politique, que vous avez traqué le loup. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes intéressé, attaché, comme sociologue, au loup ?
Alors, ce travail, c'est le fruit d'une longue histoire. J'ai fait ma thèse sur ce sujet-là et puis ensuite j'ai continué à m'intéresser à ces questions depuis, de manière un peu plus ponctuelle, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. L'énigme de départ, un peu pour moi, c'était cette étrangeté un peu de cet animal, une énigme notamment liée au fait que beaucoup d'entre nous, on se sent affectés par ces loups. Mais par contre, finalement, très peu sont concernés directement en fait par ces animaux.
Il n'y a pas beaucoup d'interaction avec.
Exactement.
D'interaction directe, je veux dire.
Pas d'interaction directe en fait. C'est un animal en fait très invisible, mais omniprésent dans l'espace public. On le retrouve, bien sûr, des alpages jusqu'aux couloirs des ministères, en passant par toute une série de lieux un peu étranges, des laboratoires d'analyse génétique, des locaux d'associations de protection de la nature, mais aussi de syndicats agricoles. Et en fait, tout l'enjeu de mon travail a été justement de pister ces loups-là.
Tous ces loups, alors, dans toutes leurs dimensions, au fond.
Voilà, et ça, c'était intéressant. Ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'appelle les propagations politiques des loups. Ces propagations politiques des loups, elles passent par quoi ? Par toute une série de versions de loups, des sortes de variants qui font qu'aujourd'hui, toutes et tous, on a l'impression de cohabiter, plus ou moins, alors pas directement, mais on a l'impression de cohabiter avec ces animaux, ou en tout cas les enjeux de cohabitation semblent nous concerner. Beaucoup de personnes ont un avis sur cette question, beaucoup de personnes se sentent concernées par l'avenir de ces loups, parfois ils se sentent concernés ou préoccupés par l'avenir des éleveurs qui doivent vivre avec ces loups. Et moi, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre, c'est de caractériser tout ce travail politique de la cohabitation avec un argument assez simple, mais à mon avis assez exigeant, c'est de dire que ces formes de présence politique des loups, donc nos manières de cohabiter, dépendent d'un ensemble de personnes, d'un ensemble de choses, a priori banales, assez ordinaires, voire parfois ennuyeuses, des formulaires administratifs, des gens qui ramassent des crottes de loups dans les montagnes. On pourra en reparler, ils sont assez déterminants ceux-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a tout cet ensemble de personnes et de choses ordinaires sont souvent invisibles, ou alors invisibilisés, on les néglige, mais ils sont déterminants. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser la cohabitation avec des animaux, même les plus sauvages, sans plonger dans ce que j'appelle des trames de la cohabitation. Et ces trames, c'est, pour le définir un peu simplement, c'est cet ensemble justement de choses ordinaires sur lesquelles se détache une présence des loups. Sans ces trames-là, les loups n'existent pas publiquement, les loups n'existeraient pas pour tout à chacun, pour la plupart d'entre nous.
la trame la plus évidente, la manière la plus naturelle, j'allais dire, au fond, pour nous tous de croiser des loups, c'est à travers les représentations culturelles du loup, les imaginaires, évidemment, le grand méchant loup, des livres pour enfants, des contes. Mais ces derniers jours, la publicité pour une marque de distribution célèbre qui est une publicité de Noël qui rencontre un succès mondial incroyable, dont j'ai mis l'image sur la page de l'émission. Tout le monde retrouvera cette marque, mais peu importe. C'est-à-dire que c'est un bon symptôme, au fond, de l'omniprésence de cet animal et peut-être de ce caractère un peu mystérieux. Vous essayez de comprendre ce mystère au début du livre. Comment le loup a-t-il pu être successivement et concomitamment, en fait, cette bête sauvage qui fait très peur et en même temps cet animal qu'il s'agit de protéger?
Oui, alors, effectivement, bon, le loup est un animal mythique, et ça, c'est peut-être, peut-être pas le seul, mais en tout cas, peut-être le principal élément de consensus parmi les gens. Et à cette espèce de consensus, le loup est un animal mythique. Alors, c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a intéressé. J'ai pas cherché à faire une analyse mythologique du loup. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que, justement, la carrière politique des loups, leur mode de présence publique, est très enchevêtrée avec toutes ces questions, ces fictions, ces mythes, ces légendes, etc., dont parlent d'ailleurs beaucoup aussi les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, et ce que j'ai cherché à faire dans ce livre, c'est plutôt faire une sociologie politique du mythe, pour comprendre comment le mythe aujourd'hui était parfois remobilisé, justement. Le mythe aujourd'hui sert à beaucoup de choses pour les acteurs. Il sert notamment à créer parfois une manière, notamment, c'est ce que je montre notamment, c'est un opérateur de temporalité. Le mythe sert à notamment marquer un avant et un après. Parler d'une représentation symbolique et mythologique des loups, c'est une manière de renvoyer parfois l'adversaire politique dans un avant, dans une sorte d'archaïsme, dans la question du mythe, tandis que l'après, ce serait plus un après plus raisonnable. Souvent plus porté justement sur un animal plus naturel, etc. Donc il y a un travail comme ça qui s'opère de purification d'image de loup qui servent, dont les acteurs se saisissent pour peser aujourd'hui dans la manière dont on négocie la manière de cohabiter avec les loups.
Mais enfin, quand même, longtemps dans l'histoire, il était représenté comme une bête féroce. Il peut toujours l'être à bien des égards, mais en même temps, à un moment donné, il est devenu aussi une espèce à protéger. Et là, c'est le travail des sciences naturelles, notamment. Vous en venez, Antoine Doré aussi, de cette discipline, qui ont produit, à partir du milieu du XXe siècle, au fond, un autre regard sur le loup qui s'est diffusé, propagé dans les représentations culturelles.
Oui, alors cette histoire de l'emblème intouchable et de la construction de comment sommes-nous passés de la bête féroce pour chasser à l'emblème intouchable. En France, il faut imaginer, les loups disparaissent dans l'entre-deux-guerres. Le dernier loup est abattu globalement dans l'entre-deux-guerres. Donc le rideau se baisse en France sur un loup bête féroce pour chasser, à exterminer. Et puis, le loup réapparaît en France en 1992 dans le Mercantour. Et là, le rideau se lève sur une toute autre bête, sur ce qu'on peut appeler une sorte d'emblème de nature, un emblème intouchable,
protégé. Entre-temps, le regard collectif sur le loup avait en grande partie évolué.
Exactement. Et alors, ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais comment, en fait, on en est arrivé là? Comment, en fait, c'est opéré cette métamorphose? Et pour répondre à cette question, en fait, j'ai choisi, là, du coup, de tracer la construction, la mise en place d'une science des loups, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de connaître les loups, qui est une longue histoire, qui se déroule notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, où là, on va voir des naturalistes qui vont découvrir un nouveau loup, aller à la recherche de ces loups-là, leur poser des questions nouvelles sur les loups. Et ce qui est assez
affirmer leur utilité.
Mais ce qui est important de noter, c'est qu'une des premières surprises quand j'ai fait ça, c'est de me rendre compte qu'en fait, au tournant du 18e, 19e siècle, et après, plutôt à la fin du 19e siècle, le loup, en fait, est exterminé. Et une des principales justifications de l'extermination des loups, c'est la conservation de la faune sauvage. à l'époque, notamment jusque dans les années 30, 40, on extermine des loups dans les espaces protégés aux États-Unis. Aldo Leopold, qui est un grand nom de l'éthique environnementale, s'est illustré, avant de devenir ce fondateur de l'éthique environnementale, s'est illustré dans des campagnes de destruction des loups. Et la destruction des loups à cette époque, ça consistait en quoi? Ça consistait justement à aller protéger ce qui était à l'époque les emblèmes de nature sauvage, les ongulés sauvages, dont on pensait qu'ils étaient ravagés par les prédateurs, en particulier les loups.
Je voudrais revenir à cette date de réapparition du loup en France, 1992, parce que cette histoire dans le Mercantour est fondatrice de la séquence que vous avez plus particulièrement observée. Et cette histoire est assez incroyable, parce que le loup réapparaît, mais au début, il ne faut pas trop le dire, quoi.
Non. Alors, cette histoire, elle est effectivement assez improbable. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'en novembre 92, des gardes-moniteurs du parc national du Mercantour font une opération de comptage, comme ça se fait notamment des ongulés, des chamois en l'occurrence. Et puis c'est là qu'ils vont apercevoir le loup, et ensuite il y a toute une histoire justement qui se met en place. Le même mois, au mois de novembre, à Aspres-les-Corps, en Hautes-Alpes, un loup est abattu. On apprendra longtemps après qu'en fait il s'agissait aussi d'un loup revenu naturellement, d'un loup de souche italienne. Pourquoi, du coup, ces loups du Mercantour ont survécu? Pourquoi on ne les a pas abattus? C'est une longue histoire, mais ce qui est intéressant à signaler ici, Véronique Campion-Vincent, qui est une ethnologue, avait fait un travail d'inventaire et avait notamment montré que la disparition du loup, le loup avait finalement peut-être pas complètement disparu de France depuis l'entre-deux-guerres. Entre 1945 et 1992, elle inventorie plusieurs dizaines d'apparitions de loups, dont 25 qui avaient été confirmées puisqu'on avait capturé ou détruit le loup. Et en fait, cette idée que les loups revenaient en France ponctuellement, d'Italie notamment, est quelque chose finalement de très ancien et qui peut-être n'a jamais cessé.
Mais alors comment expliquer la tentative d'organisation d'une forme de silence autour de cette réapparition?
Alors, ce silence est lié au fait que, justement, on a l'impression que le loup, quand au début des années 90, cette image de l'emblème intouchable, le loup est protégé par la Convention de Berne, la France a ratifié cette convention, donc le loup est normalement, c'est plus compliqué que ça, mais normalement, globalement, on annonce l'arrivée d'une espèce strictement protégée. Mais les gardes-moniteurs du Parc National du Mercantour et les agents du ministère de l'Environnement préfèrent attendre avril 1993 pour rendre public le retour des loups, puisqu'ils pensent justement que ces loups risquent d'être détruits. Et pour cause, ils ont en tête un certain nombre d'histoires précédentes d'apparitions de loups qui avaient été détruites, et notamment le loup de Fontan dans la vallée de la Roya, qui en 1987 avait été prélevé, détruit. Pensant que c'était un animal échappé. Et les expertises avaient montré après coup que le loup de Fontan était effectivement un loup qui s'était échappé. Les analyses génétiques, encore une fois, plusieurs années après, montreront qu'en fait, c'était aussi un loup de souche italienne. Mais tous ces acteurs, ces gardes-moniteurs, ces agents du ministère ont en tête cette histoire. Donc, ça veut dire qu'aussi, ils sont déjà attentifs à ce qui se passe sur leur territoire ensuite, à partir de la fin des années 80. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas ils sont pas complètement surpris de trouver ces loups en 1992, mais surtout ils savent que ce loup-là, même s'il est protégé, ils savent qu'en fait, il va falloir préparer son retour si on ne veut pas que le retour du loup ne s'arrête avec la mise à mort de ces loups.
Alors le retour du loup, c'est toute une histoire, c'est l'histoire de votre recherche à bien des égards, Antoine Doré, parce que ce retour du loup va avoir des incidences, pas seulement ce loup-là, de manière plus répétée, le retour du loup en tant qu'espèce dans les montagnes, les campagnes françaises, va produire des mobilisations politiques de gens qui vont s'inquiéter du retour des loups pour leurs troupeaux, en particulier, bien évidemment, des bergers. Mais le loup va aussi, on va y venir, mais complètement ébranler l'appareil d'État, en fait. On ne sait pas qui doit se saisir du loup. La question n'est pas simplement est-ce qu'il faut détruire les loups ou pas, c'est beaucoup plus vaste que ça. Peut-être peut-on commencer d'abord par les mobilisations des anti-loups. Et là, votre livre a le grand mérite de montrer la complexité, les nuances des positions des uns et des autres.
Oui, alors, bon, le loup, c'est vraiment un animal conflictuel. Ces conflits sont liés à des enjeux de cohabitation, notamment à les activités d'élevage. C'est vraiment le point de départ. Ce qu'il faut signaler, c'est que les premières mobilisations n'apparaissent qu'assez tard, à la fin des années 90. Bon, allez, 1997 notamment, c'est une année un peu charnière.
Donc 5 ans après ce fameux loup de 92.
Et pour cause, les premières années, les loups revenus en France, finalement, s'attaquent très peu aux brebis. Ils sont très peu intéressés par ça. Donc juste là pour signaler qu'on n'est déjà pas dans la forme d'une sorte de mobilisation qui serait une sorte de réaction un peu instinctive, d'hostilité à cet animal sous prétexte que ce sont des loups. Et voilà. Alors que le jour où c'est Terre Sauvage qui annonce le retour des loups en France, le jour de la publication, les agents du parc national savent que ça va tomber. Et dans les couloirs des maisons du parc du Mercantour, beaucoup de gens s'inquiètent et ont peur de cette réaction. La réaction n'a pas lieu. Et donc, c'est bien un moment, l'augmentation et l'apparition des dommages aux troupeaux qui va générer des formes de mobilisation. Ensuite, sur ces aspects de mobilisation, ce qu'il faut vraiment, il faut insister sur le fait que donc, c'est très lié à ces attaques. Dans ces attaques du loup sur les troupeaux, bah, ça génère des dégâts sur les troupeaux notamment. Et ça génère beaucoup d'émotions aussi. Des gens qui sont affectés de découvrir le matin des bêtes égorgées au milieu de leurs estives. Mais en fait, ça ne sont pas ces dommages matériels ou ces mobilisations ne sont pas juste le fruit de ces dommages matériels ou de ce qu'on pourrait qualifier comme des réactions émotionnelles ou des peurs irrationnelles, en fait. Ces mobilisations, elles sont le fruit aussi du fait que le loup vient... Il ne vient pas mettre en jeu simplement des exploitations agricoles, il vient mettre en jeu des manières de vivre sur un territoire, il vient mettre en jeu des formes d'attachement au territoire, et notamment, il met en jeu des manières, quelles sont les bonnes manières d'entrer en relation avec toute une série d'autres vivants que les loups.
De vivre ensemble, entre humains,
de vivre ensemble, non-humains. Entre humains, mais aussi déjà de vivre ensemble avec ces animaux, ces brebis en l'occurrence. Quand les loups arrivent, on propose du coup des mesures de protection. Ces mesures de protection des troupeaux, le triptyque classique, c'est la présence humaine d'un berger, des clôtures pour parquer les animaux pour la nuit, et puis le chien de protection. Ces mesures sont relativement efficaces. Elles ne sont pas imparables, mais elles sont efficaces. Mais ces mesures aussi ont des conséquences importantes sur la manière de travailler pour ces gens-là, sur la manière de vivre, sur leur relation à leurs animaux, mais aussi sur leur relation à leur entourage. Le chien de protection, c'est l'exemple classique qui va transformer très fortement la relation avec les autres usagers du territoire de la montagne. Les vététistes, par exemple, c'est la cohabitation entre chien de protection et VTT pose un certain nombre de problèmes. Parfois, il peut y avoir des accidents. Ces accidents, ensuite, conduisent à des plaintes qui ont parfois des suites judiciaires. Donc là, l'éleveur, par exemple, se retrouve au tribunal pour avoir mis en place une mesure de protection et d'avoir accepté de mettre en place, parfois un peu à reculons, ce genre de mesure. Donc, c'est aussi le chien de protection va changer la relation au voisinage. Il y a des plaintes pour aboiement, par exemple. Donc, ce n'est pas simplement le vététiste ou le touriste qui vient à la montagne de temps en temps. C'est aussi les gens avec qui on habite au quotidien, parfois,
Là, on voit la mise en œuvre de ce qu'on appelle la théorie de l'acteur réseau, dans laquelle vous vous inscrivez pour penser les relations entre humains et non-humains, qu'ils se soient des vivants ou des objets aussi. D'ailleurs, en l'occurrence, ces mesures de protection, elles ont également un impact sur les loups eux-mêmes, qui sont des acteurs qu'en tant que sociologue, vous observez de la même manière, Antoine Doré.
Oui, alors pour moi, c'est un peu le sens du sous-titre de mon... Du livre, c'est faire de la sociologie avec les animaux. Faire de la sociologie avec les animaux, comme vous l'avez dit, ça s'inscrit dans cette tradition de la théorie de l'acteur réseau, notamment, qui prend au sérieux la place des non-humains dans nos manières d'organiser notre vie ensemble entre humains. Et donc, faire de la sociologie avec les animaux, c'est justement analyser la manière dont, aujourd'hui, des humains ne font pas société que entre humains et pas simplement entre humains à propos des animaux, mais entre humains avec des animaux. Et l'exemple du loup est assez intéressant, puisqu'en fait, on voit à travers, quand on prend au sérieux à la fois les loups dans cette histoire, mais aussi encore une fois les moutons, peut-être les chevreuils ou les proies en fait, de ces animaux, on comprend en fait que se joue vraiment un enjeu de cohabitation. Penser la cohabitation avec les animaux, aujourd'hui, c'est prendre au sérieux ce qu'on pourrait appeler le versant animal vraiment au pied de la lettre. Et donc, c'est considérer que notamment ces animaux, et en particulier les loups, éprouvent subjectivement leur monde, ce qui les entoure. Donc, c'est pour ça qu'ils habitent leur monde. Ils en ont une expérience. Et donc, habiter avec ces loups, c'est forcément cohabiter. Puisque... Et donc, c'est ça que j'ai essayé de tracer dans ce livre, en prenant au sérieux la place des loups, mais pas seulement, encore une fois, ce qui est important autour de ce travail, c'est de montrer que la cohabitation avec les loups, ce n'est jamais qu'une cohabitation bipolaire entre des humains et des loups. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du chien de protection le montre bien, c'est toujours une cohabitation multipolaire, une cohabitation qui va supposer des réorganisations de nos manières d'entrer en relation avec du sauvage, des loups, mais aussi avec des êtres domestiques.
Avec des brebis, voilà. Avec le chien et évidemment avec les bergers.
Voilà.
Et puis avec un autre acteur, l'État. Vous parlez de mise en état du loup.
Oui. Alors l'État, les relations entre l'État et le loup, c'est une très longue histoire. C'est une très très longue histoire. Pensez notamment que, en gros, ce qui est devenu ensuite la Louveterie date de 813.
François Ier, c'est ça ?
Alors ensuite, voilà, ça a été officialisé par François Ier, mais Charlemagne, en 2013, en tout cas sous Charlemagne, déjà ce qui s'apparente un peu à la Louveterie était déjà mis en place. Et donc, voilà, le loup, ce qui est vraiment fascinant, c'est à la fois l'emblème du sauvage, mais c'est aussi vraiment l'animal qui va générer des problématiques qui vont atteindre les sommets de l'État, et depuis très longtemps. L'État, en fait, dans cette histoire, est souvent largement mis en... éprouvé par la présence des loups. Pour prendre l'exemple contemporain, quand les loups arrivent en France, ce qui va vraiment mettre à l'épreuve, c'est l'existence de cet État, c'est le mode d'existence de cet État qui, pour les acteurs, tout d'un coup, devient un peu flou. D'une part, on considère que les acteurs considèrent que l'État est schizophrène, fragmenté, entre un ministère de l'Agriculture et un ministère de l'Environnement qui n'arrivent pas à s'entendre. Le ministère de l'Agriculture va vraiment... Enfin, la mise en dossier de cette question va arriver, en fait, au ministère de l'Agriculture qu'au début des années 2000. Pendant longtemps, il refuse de s'en occuper, considérant que s'en occuper, ce serait l'accepter. Et du coup, il refuse de le faire. Donc, il y a une histoire un peu compliquée de comment le ministère de la Culture s'est mis en place et s'est intéressé au loup. Autre point, il y a cette fragmentation. L'État devient bipolaire. Les acteurs, parfois, parlent de cette schizophrénie de l'État, etc. Et puis, l'État aussi devient, pour les acteurs, nébuleux. Tout d'un coup, c'est une manière d'interroger les liens entre l'État et son environnement. Une commission d'enquête parlementaire, en 2003, notamment conduite par Christian Estrosi, va vraiment interroger les préfets, les ministres, regarder ce qui se passe dans le ministère de l'Environnement pour justement montrer tous ces liens entre les agents des ministères et le monde de la protection de la nature. Et il y en a. Il y en a, comme il y en a énormément aussi du côté du ministère de l'Agriculture. Et c'est là où, du coup, se joue aussi, à travers le loup, la mise en épreuve de cette frontière entre l'État, l'intérêt général et le lien avec d'autres acteurs, comme des militants, qu'ils soient syndicalistes du côté agricole ou des associations de protection de la nature de l'autre.
Dans votre livre « Politique du loup », faire de la sociologie avec des animaux, on pourrait rajouter faire de la sociologie politique avec des animaux, vous utilisez le concept de carrière politique. Vous dites le loup a une carrière politique. Ça renvoie à deux choses. Carrière politique au sens de la sociologie politique, mais carrière au sens du concept de Howard Baker, au fond, de carrière sociologique, c'est-à-dire d'un parcours, d'une trajectoire sociale avec des étapes. En quoi ce concept vous a permis de penser le loup, Antoine Doré ?
Alors pour moi, ce concept, au départ, c'est vraiment un concept qui a un... Comme j'ai l'habitude d'utiliser les concepts, pour moi, c'est avant tout des fils qui m'aident ensuite empiriquement à travailler sur le terrain. Et donc, pour moi, la carrière politique des loups, c'est assez simplement la position. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le cheminement du loup dans différentes positions dans l'espace public et ces positions qui sont caractérisées par la nature et le nombre de soutiens et d'oppositions que les loups recueillent. Un peu comme une carrière politique d'un homme politique, quelque part, elle dépend de quoi ? Elle dépend des oppositions et des soutiens que cette personne...
De ses relations sociales diverses et variées.
Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de me dire, en fait, on a des modulations assez importantes, on voit vraiment... Le loup, en fait, change de position dans l'espace social, et ces positions se caractérisent par ses soutiens et ses oppositions. Et la question qui m'a intéressé, c'est, pour revenir à cette question du travail politique de la cohabitation et de ces trames de la cohabitation, c'est que justement, pour moi, cette carrière politique, c'est bien la conséquence de l'ensemble de tous ces dispositifs, ces procédures, de toutes ces trames, de toutes ces choses, de toutes ces personnes, souvent invisibles, mais qui donnent corps au loup. La question, c'est qu'est-ce qui donne corps aujourd'hui à ces animaux invisibles qui fait qu'aujourd'hui, les loups recueillent des soutiens ou des oppositions ?
Qui donne corps, il faudrait rajouter un S à corps, il y en a déjà un, même au singulier, mais on a besoin d'un deuxième au fond, parce que ces corps sont multiples. Les corps du loup, vous en faites d'ailleurs, Antoine Doré, la cartographie.
Oui, alors, effectivement, j'essaye de caractériser les manières dont on gouverne aussi les vivants, et en particulier ces loups. Et pour faire ce travail, j'essaye justement de brosser cette cartographie politique des loups, avec cette attention à chaque fois, toujours de dire, est-ce qu'on est là en train de parler, on a parlé de mythes au début de cet entretien, et ce que j'essaye à chaque fois de faire, c'est de raccrocher au loup réel, au loup dire... Parce que en 92, quand les loups arrivent, ça change la vie de la place publique des loups. Donc c'est bien à chaque fois qu'est-ce qui relie. Et donc ce qui m'intéresse en caractérisant ces corps, c'est de caractériser plusieurs modalités. On a le corps entier, les loups en chair et en os sur le terrain, avec lesquels on a très peu de relations.
On a envie de dire les vrais loups, ceux qu'on voit jamais, mais qui sont bien là et qui peuvent égorger les brebis à l'occasion ou pas.
Voilà, et on les voit jamais, mais c'est pourtant eux et c'est leurs actions qui ont des effets, des répercussions jusque à l'Assemblée nationale.
Et qui démultiplient le corps du loup.
Voilà, et donc c'est ces fameuses propagations. Donc c'est bien les propagations politiques des loups, des corps entiers qui m'intéressent. Et là, du coup, j'ai essayé, ce qui m'a, en enquêtant sur cette question, et en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait que les loups réels, finalement, sont présents publiquement, et bien ensuite, on se rend compte que c'est d'abord des corps disséminés qui existent, qui donnent. C'est d'abord des indices, des traces, une trace dans la neige. Je parlais de crottes de loup. On forme en France des centaines de gens à aller collecter des crottes de loup. Et bien, figurez-vous que c'est un travail, encore une fois, peut-être, qui paraît anodin et dont on parle jamais.
Mais c'est une mesure du loup.
Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire si les loups ou pas sont en bon état de conservation. Donc, pour les gens qui sont préoccupés par l'état de conservation des loups, ben, sachez qu'en fait, leur préoccupation... Et eh bien en fait, les gens qui ont la réponse à ça, en particulier, ça va être aussi, ça passe par justement des gens qui vont chercher des indices de loups, qui s'intéressent à ce que j'appelle le corps disséminé du loup. Des traces aussi, des traces de crocs dans la gorge des brebis. Ça, c'est aussi une trace que va laisser le loup. Et ensuite, tous ces indices, toutes ces traces doivent être assemblées, recomposées pour leur donner sens, pour donner des significations. Et donc là, on assiste à ce que j'appelle le corps recomposé du loup, qui devient ce corps politique du loup, qui est ce travail d'assemblage de toutes ces traces que les loups laissent, mais qui suppose, encore une fois, quand je parle de travail politique de la cohabitation, voilà, là, ça va être des gens dans des laboratoires d'analyse génétique qui vont analyser les poils et les crottes de loups pour savoir si oui ou non ce sont des loups et quel loup on a affaire.
Ça va être les quelques photographies qu'on voit parfois dans les journaux.
Voilà, avec
de
des
nuit.
Pièges photographiques, par exemple. Des pièges photographiques sont très utilisés aujourd'hui. Ça s'est beaucoup démocratisé. Ensuite, ce genre de les données génétiques passent aussi dans des grands modèles où les biostatisticiens modélisent tout ça pour savoir combien aujourd'hui on a de loups. Et donc là, on a ce corps recomposé qui prend forme et qui ensuite, dernière mode de corporel en fait du loup, ce que j'appelle le corps réticulé, c'est ensuite, une fois que ces corps recomposés existent, comment ils circulent dans l'espace public. On voit qu'ils ne circulent pas de manière indifférenciée et de manière homogène et que le loup menaçant, mangeur de brebis, circule dans certains... il va par exemple beaucoup concerner les syndicats agricoles. Il intéresse aussi les associations de protection de la nature, mais selon des modalités un peu différentes. On fait parler les chiffres, il y a toute une guerre des chiffres autour des loups. Ça, c'est vraiment un sujet important. Or, les chiffres, on sait, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ou alors, ils disent beaucoup, ou on peut leur faire dire beaucoup de choses. Et donc, quand aujourd'hui, on dit que 11 000 animaux ont été victimes des loups, puisque c'est les chiffres de 2024, ce genre de chiffre, ensuite, va être retraduit par les différents acteurs qui vont justement le faire que cette figure de la menace du loup mangeur de brebis circule dans l'espace public et détermine la manière dont on va agir en réponse à cette menace qu'induisent les loups.
C'est-à-dire que ces différents types de corps de loup vont être brandis en quelque sorte dans l'espace public, rarement le corps entier, mais plutôt des traces ou des corps disséminés, des corps recomposés, des corps réticulés, pour reprendre vos expressions, vont être brandis par différents types d'acteurs sociaux, que ce soit des militants, que ce soit des autorités, que ce soit des médias, que ce soit des administrations diverses.
Oui, exactement.
Ou des scientifiques, je les oublie.
Exactement. Et là, c'est là où, quand on brandit ces grandes images et qu'elles circulent de manière un peu indifférenciée et un peu, on va dire, hors sol, c'est là où on génère de la polarisation politique. Et tout l'enjeu de mon travail, justement, c'est de faire atterrir un peu ce travail politique et de raccrocher ces grandes figures aux trames qui les rendent possibles. Et c'est là, pour moi, qu'on peut un peu dépolariser le débat. Et c'est, en gros, tout l'enjeu de mon travail ici, c'est de dire que les sources du problème autour de ce problème de cohabitation, c'est pas les loups, c'est pas les humains, c'est pas tel loup ou tel humain, c'est le type de relation que ces vivants ont ensemble. Et ces relations, en fait, elles dépendent de ces trames, justement. Et donc, prendre soin aujourd'hui des vivants ou de nos relations aux vivants, ça suppose de prendre soin de ce qui nous relie à ces vivants. Tous, justement, ces chaînes qui transforment des corps entiers en figures politiques. Et c'est ça, c'est de dire que, par exemple, si aujourd'hui on dit qu'il y a 1082 loups en France, c'est le dernier chiffre qui vient de sortir. Et en fait, ce genre de chiffre, il faut surtout pas qu'il circule de manière abstraite dans l'espace public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 1082 loups, ça ne veut pas dire grand-chose sur le plan écologique, parce qu'en fait, c'est plus ou moins 100 loups. 1082 à l'unité près, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis ensuite, parce que ces chiffres, ils peuvent être mobilisés de manière très différente. Et la manière dont on les mobilise doit dépendre de la manière dont ils sont produits. Et donc, c'est toute l'importance, en fait, pour des enquêtes, à mon avis, notamment en sciences sociales, sur ces questions, c'est bien d'essayer de poursuivre l'enquête sur toutes ces trames de la cohabitation qui, aujourd'hui, rendent possible un rapport à ces animaux, et en particulier ceux qu'on ne voit jamais.
On continue à parler de cohabitation avec le loup, mais aussi d'autres animaux, et cette fois plutôt en ville, avec l'architecte Léa Mosconi qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est après un extrait de l'un des premiers albums les plus saisissants de cette année 2025, l'album de Tom Henry, le titre But I Loved Her.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
She said, one day someone will love you the same, but I loved her. She left, I cried, I found no reason why, but I loved her. And in my mirror shines a face, can't be erased or replaced by the faces of those I keep missing. And though my heart beats at a pace that places last in every race, it longs to fade to subdue a heart's dismissing.
She said, one day you'll understand true heartbreak.
portes de Toulouse, titre ce jeudi, La Dépêche du Midi, me confiait Antoine Doré. Avant qu'on commence cette émission, à propos d'un loup apparu dans le Lauragais, ce pays au sud de Toulouse, un loup donc aux portes de la ville. Il y en a peu, malgré tout, dans les villes, même si il a été question dans Le Parisien, il y a quelques semaines, d'un loup en Seine-et-Marne, qui fait parler de lui aussi. Les animaux dans la ville, c'était les animaux à Paris en particulier, l'objet d'une exposition qui s'est tenue au pavillon de l'Arsenal en 2023 et dont vous avez été la co-commissaire, Léa Mosconi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte. Oui. Et donc, avec Henri Bonny, vous aviez conçu cette exposition Paris Animal. Vous avez continué de travailler sur le sujet, notamment à la Villa Médicis. Vous continuez à explorer ce sujet. Et je me suis dit, au fond, que vous étiez posé un certain nombre de questions déjà amplement exposées par Antoine Doré, à savoir qu'il y a les corps des animaux, mais aussi il y a d'autres façons de concevoir la présence des animaux à travers leurs traces, leurs représentations, leur présence jusqu'à y compris dans les dossiers administratifs. Votre exposition, qui avait aussi une dimension historique assez forte, j'imagine qu'elle a très tôt rencontré cette question des présences multiples des animaux dans la ville.
Oui, en effet, au début, on s'est posé une question extrêmement actuelle. On s'est dit, par rapport à la manière dont évolue la question écologique, comment est-ce qu'on réfléchit à la manière dont on peut cohabiter avec les vivants en pensant et les enjeux d'altérité qui sont à l'œuvre et les enjeux de biodiversité qui sont évidents. Et puis, en se posant cette question, on a commencé à remonter le fil. On a commencé à regarder comment la modernité avait un peu bouleversé notre rapport au vivant. Et puis on s'est dit, il faut aller au-delà pour voir comment c'était encore avant. Et donc ça nous a amené à faire une exposition en quatre parties, où on avait une partie qui racontait, on va dire, une animalité de la ville, un enchevêtrement des corps dans la ville, et une animalité des relations entre humains et animaux, qui courait du gallo-romain au Moyen-Âge, pardon. Et puis on avait une énorme partie qui était vraiment très épaisse, très dense, qui allait, on va dire, de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, et qui racontait la manière dont on voit à l'œuvre une domestication des corps. Et donc ça passe, vous avez raison, par des questions juridiques, administratives, par des représentations symboliques, par des histoires très concrètes aussi. Et donc cette partie, elle nous a été extrêmement utile pour comprendre l'héritage encombrant qu'on avait avec nous, pour regarder aujourd'hui dans l'architecture, dans la ville, quels étaient les leviers, quels étaient les freins pour penser les cohabitations qu'on évoquait juste avant. Et donc c'est pour ça que cette épaisseur historique, elle est venue pour comprendre, vous parliez de l'acteur réseau tout à l'heure, mais en fait pour mobiliser l'acteur réseau, il nous semblait aussi qu'il fallait comprendre ces héritages, ces fantômes et ces spectres qu'on avait autour de nous.
Alors, des animaux, ils sont divers. Dans son introduction, Antoine Doré dit qu'au fond, entre les deux pôles que constituent les animaux sauvages d'un côté et les animaux quasi-enfants de l'autre, en reprenant en cela des distinctions proposées par Charles Stepanov, par exemple, il y a toute une gamme d'animaux qui ne sont ni l'un ni l'autre, et donc on en croise beaucoup dans les villes, à vrai dire des animaux sauvages assez peu, au sens des animaux sauvages féroces, mais on trouve beaucoup d'animaux domestiques, ça, de plus en plus probablement, de plus en plus qui sont considérés comme des personnes à bien des égards. Mais c'est tout ce spectre, au fond, des différentes manières d'être animal dans la ville, en l'occurrence dans Paris, qui vous a intéressé.
Oui, c'est tout ce spectre. Et en effet, on avait toute une partie autour de l'animal de compagnie qui a des enjeux qui sont parfois un peu moqués et autres, alors qu'en fait, il y a aussi des relations de compagnonnage qui sont assez belles.
Mais d'ailleurs, cette exposition, on pouvait la visiter avec son chien. Moi, j'ai amené Nadji, ma chienne, voir cette exposition.
Exactement. Et on a modifié le règlement intérieur du pavillon de l'Arsenal pour ça. Et aujourd'hui, on peut encore aller au pavillon de l'Arsenal avec son chien ou d'autres animaux. Mais on s'est dit qu'il y avait aussi un enjeu à raconter ce qu'on ne voyait pas, parce qu'on on a tendance à avoir de la tendresse et de l'affection pour les animaux de compagnie, les animaux que l'on voit, même furtivement, même le renard du Père Lachaise, on l'a vu et revu avec joie en photo. Et on s'est dit, il y a quand même un enjeu aussi de biodiversité, je l'évoquais tout à l'heure. Par exemple, à Paris, entre 2003 et 2016, on a perdu 72% des populations de moineaux, 46% des populations de martinets noirs, les hirondelles de fenêtre et autres. Je pourrais égrener la liste longuement. Et en fait, à Paris, il y a un enjeu dans les façades, sur les toits, dans les parcs, jardins et autres d'accueil du vivant. Et nous, en architecture, on a une question que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'avec la réglementation thermique, aujourd'hui, on isole de plus en plus les bâtiments par l'extérieur. Donc, on crée des façades lisses.
Et ça, pour les hirondelles, c'est pas terrible.
Et ça, c'est pas terrible. Et en fait, notre exposition, elle avait pour but aussi, évidemment, de raconter l'animal de compagnie, l'animal, les transhumances et autres, mais aussi de regarder, de prendre au sérieux cette question qui est assez complexe, de se dire il y a aussi un enjeu de biodiversité, il y a aussi un enjeu de conception architecturale et il y a aussi un enjeu de réflexion sur comment on peut accepter le vieillissement et pas faire des ravalements intempestifs, comment on peut concilier des enjeux énergétiques avec des enjeux du vivant et c'est ce qu'on a aussi essayé de montrer.
Antoine Doré, on retrouve ces questions de protection, de clôture, comment c'est des éléments d'architecture aussi, au fond, et de dispositifs pour favoriser ce vivre ensemble.
Oui, alors effectivement, c'est la cohabitation avec les loups, avec du sauvage, avec le passe aussi par un certain nombre une matérialité qui parfois est assez encombrante pour certains acteurs plus que pour d'autres. Et effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas les loups, mais l'ombre des loups plane. En fait, on sait qu'il y a des loups sur un territoire parce qu'il y a des nouvelles clôtures, parce que aussi la cabane du berger a été rénovée, et ça c'est aussi parce que les loups sont là et que des bergers doivent désormais vivre sur place. Donc effectivement, cette matérialité, cette manière d'aménager aussi de manière très matérielle les espaces où les loups sont présents, c'est quelque chose de très important et qui fait aussi l'objet de beaucoup de négociations entre les acteurs. Parfois, en fait, et souvent, les gens ne négocient pas la présence du loup lui-même. Ils négocient les conséquences de sa présence. Et ils négocient, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, mettre des clôtures pour faire un parc de nuit pour protéger les moutons, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour l'éleveur ? Qu'est-ce que ça change pour le promeneur qui, du coup, ne peut plus passer comme il passait avant ? Il faut enjamber ou pas ? Et donc, on voit vraiment cette matérialité à l'œuvre et la manière dont elle est négociée sur ce dossier.
J'imagine que c'est des questions qui sont au cœur de votre réflexion, Léa Mosconi. Vous avez récemment publié dans les excellentes éditions 205 « Architecture vivante, architecture des vivants » pour adresser ce type de questions comme architecte, comme urbaniste, j'imagine.
Oui, en effet. Tout à l'heure, je parlais de la façade, et si on change d'échelle et qu'on regarde l'échelle du territoire, par exemple, il y a toute une réflexion sur les continuités qui a été largement amplifiée par les lois Grenelle 1 et 2, et qui le mettent au cœur là aussi. On parlait tout à l'heure des enjeux juridiques. Et en fait, aujourd'hui, on voit que malgré tout, le front de modernisation à l'œuvre fait qu'on vit dans des territoires morcelés. Et on vit dans des territoires morcelés, mais en fait, les infrastructures autoroutières ou autres mettent en place de plus en plus des dispositifs de compensation. Donc ça veut dire que les animaux peuvent passer, par exemple, dans des écoducs et des écopons juste au-dessus des autoroutes ou juste en dessous. Et en fait, il me semble que ça met de manière saillante, ça nous pose de manière saillante la question de la société dans laquelle on a envie de vivre, à savoir soit une société où on aménage tant bien que mal des présences animales par des dispositifs comme ceux-là. Nous, dans l'exposition, on a montré des photos des animaux qui passent sous les autoroutes et au-dessus. C'est pas extrêmement heureux. Donc, est-ce qu'on aménage? Ou est-ce qu'on a une certaine forme de radicalité? Et que si on prend sérieux la question de la cohabitation, ça veut dire qu'il y a aussi des horizons à atteindre, des objectifs à atteindre, et qu'on ne peut pas parler de cohabitation quand en fait on est dans les relations asymétriques de domination, d'exploitation et autres. Et donc je pense que cette notion de cohabitation, elle est vraiment à interroger en profondeur, et il faut voir comment est-ce qu'on n'aménage pas seulement la misère, mais comment est-ce qu'on prend clairement position en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste aussi.
Antoine Doré, c'est cette question qui vous fait défendre l'idée de monde commun, certes, mais avec un S à monde, dans une perspective qui est celle aussi d'Isabelle Stengers, par exemple.
Oui, l'idée là, c'est vraiment de mettre en commun des mondes, plus que peut-être chercher un monde commun. Surtout sur ces sujets très clivants, chercher un monde commun, ça passe souvent par des formes, des manières d'imposer des choses. Produire des mondes communs, c'est à un moment réussir à considérer que ce qui compte pour différentes personnes sont différentes dans et qu'à un moment, ce qu'il faut réussir à faire ensemble, c'est d'articuler ces mondes communs. Sur ces questions de cohabitation, alors moi, c'est vraiment un sujet qui, et c'est souvent avec ce mot-clé qu'on parle, cohabitation avec le prédateur. Alors, et tous les acteurs cherchent, soit c'est un slogan à défendre, soit des gens, au contraire, disent c'est impossible, il faut surtout pas, on peut pas cohabiter. Moi, en tant que sociologue, je considère que c'est une réalité empirique qui est analysable sociologiquement. Je cherche pas à dire s'il faut ou pas cohabiter. Mais ce que je voulais préciser ici, c'est aussi de dire que le refus de cohabiter, il est assez présent plutôt du côté des éleveurs, mais il existe aussi du côté des naturalistes, qui cherchent justement à éviter de dire les humains ne doivent pas habiter partout et qu'il y a des zones où il faut éviter la cohabitation. Et donc ce débat, il est plus compliqué en fait qu'une opposition entre ceux qui refusent de cohabiter et ceux qui veulent absolument.
Merci beaucoup, Antoine Doré. Je rappelle le titre de votre livre, Politique du loup, faire de la sociologie avec les animaux, publié au PUF. On trouve la référence sur la page de l'émission. Et merci beaucoup, Léa Mosconi.
Merci beaucoup.
Paris Animal, pour mémoire, et le lien vers les traces de l'exposition désormais, mais d'autres projets à venir autour de cette idée, bientôt.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité consacrée à une revue aujourd'hui, la revue Agora, qui consacre le dossier de son nouveau numéro aux pratiques culturelles juvéniles, aux régulations familiales, c'est-à-dire aux médias sociaux et à leurs usages. C'est un dossier qui est coordonné par Anne Jonchery, Amélie Charuot et Amélie Louguet, dans lequel on trouve quatre articles passionnants, dont l'un signé Claire Balès, qui est sociologue, professeure à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève, là où elle dirige le Media Lab de Genève. Bonjour Claire Balès.
Bonjour.
Vous avez signé dans ce numéro l'un des quatre articles consacrés à la question, s'il en est, autour de ces thématiques mises à l'agenda politique et présentées souvent comme une sorte de panique morale, la question de la régulation des usages des écrans à l'adolescence. Et c'est à partir d'une démarche ethnographique que vous tentez de répondre à cette question.
Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que quand on parle des usages des réseaux sociaux par les adolescentes et les adolescents, il faut toujours tenir compte vraiment du contexte en fait de socialisation, parce que les pratiques numériques sont pas déconnectées de la vraie vie. On vit aujourd'hui dans une société qui est profondément médiatisée par le numérique, et donc les modes de socialisation juvéniles sont hybrides en fait. Ils se déroulent à la fois en présence et puis de manière médiatisée. Alors il y a la socialisation horizontale entre pairs, de ce qui se passe, de toute l'importance en fait de ces cultures, de ces pratiques pour grandir et puis pour s'intégrer plutôt à ces groupes de pairs. Et puis il y a l'axe vertical aussi du contexte de socialisation familiale, sociale. Et en fait, j'essaye de remettre toujours un peu de contexte pour comprendre un peu ces pratiques.
Et vous contextualisez, oui, en fonction des milieux sociaux où les écrans ne remplissent pas tout à fait le même rôle, en fait. C'est compliqué de penser le numérique sans penser des déterminants socioculturels qui demeurent extraordinairement présents, en fait.
Oui, parce qu'en fait, quand on parle du numérique, on parle de lien social. Le numérique, c'est ce qui vous permet d'être en lien avec les membres de votre famille, avec vos amis, avec vos proches, qui sont proches ou éloignés.
Mais c'est pas un autre monde social, en fait.
Non, c'est pas un autre monde social. Et puis, ça dépend aussi beaucoup des ressources. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du temps d'écran, il y a beaucoup de préoccupations autour du temps d'écran, mais il faut parler des alternatives aussi à ce temps d'écran. Et ces alternatives, elles demandent des ressources, en fait, concrètement matérielles pour avoir des activités parascolaires, pour aller au cinéma, pour aller au ski, je suis suisse. Donc, il y a beaucoup de jeunes, des familles plutôt favorisées en Suisse qui vont au ski le week-end, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et souvent, en fait, on prend la jeunesse un peu comme une catégorie homogène qu'elle n'est absolument pas. Et puis l'autre point, c'est que c'est devenu un petit peu aujourd'hui la bonne parentalité se mesure un peu à l'aune justement de cette régulation des écrans. Et donc il y a beaucoup de questions morales derrière, d'un idéal de résistance, justement de régulation, mais on se heurte assez vite en fait à ces questions de ressources notamment, et puis d'environnement familial ou social qui permettent ou plus ou moins des alternatives.
Alors, un autre article du dossier permet de prendre la mesure de tout ça autrement. C'est l'article « Parentalité numérique » qui est co-signé par Agnès Grimaud-Leprince, Barbara Fontard et Michael Lemontec, dans lequel il distingue au fond trois idéotypes de parents dans leur préconisation ou dans leur rapport aux écrans pour leurs enfants. Il y a d'un côté des parents anxieux vigilants, des parents experts confiants et des parents profanes défiants. Et tout ça, ça dépend aussi beaucoup des relations et des expériences que les parents eux-mêmes entretiennent à ces objets connectés.
Bah oui, tout à fait. Il y a ces différents types de parentalité. Puis il y a aussi beaucoup, ce dont on parle parfois moins, différents types de conjugalité aussi. Parce que, en fait, on parle beaucoup de cette relation entre enfants ou ados et parents avec les écrans qui viennent un petit peu jeter de l'huile sur le feu. En fait, moi, ce que je constate dans mes travaux de recherche, c'est que, en fait, c'est aussi vraiment des sources d'agacement et de conflits conjugaux, mais sans fin aussi, parce que, voilà, il y a toute la régulation familiale et donc aussi conjugale. Et moi, dans mes enquêtes, j'interroge aussi les enfants sur les usages des parents. Et ce qui permet de voir aussi un peu toutes ces frictions quand monsieur par exemple prend le téléphone à table et ce qui va agacer parfois madame, ou alors la guerre des ex aussi, ça c'est vraiment entre ex, donc où on va dire chez mon ex c'est open bar, ils sont tout le temps dessus, donc moi j'essaie d'instaurer un espèce d'équilibre. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des types de parentalité, et puis il y a aussi en fait ça vient chercher des négociations aussi beaucoup de conjugales et aussi entre parents. Il y a la question du genre, par exemple, qui est assez prédominante.
Alors, il y a deux autres articles dans le numéro, dans ce dossier de la revue Agora, pardon, qui s'intéressent plutôt aux pratiques, cette fois, des adolescents eux-mêmes. Un article de Noémie Rock et un article de Mariana Colella sur la circulation des vidéos et sur la réception des vidéos Instagram qui sont passionnants et qui s'appuient aussi toujours sur cette méthode ethnographique pour essayer d'aller voir au-delà de ces statistiques auxquelles souvent on résume l'usage du numérique.
Mmh. Oui, parce que la question aussi de nouveau du temps d'écran, en fait, les usages des réseaux sociaux, c'est à la fois de la consommation médiatique, hein, vous pouvez scroller sur TikTok, vous pouvez regarder des contenus, etc. Mais il y a aussi toute la question de la présentation de soi, de qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on capture,
qu'est-ce qu'on partage aussi avec qui.
Voilà, et là, c'est assez génial parce que, en fait, jusqu'à présent, la représentation des ados était vraiment entre les mains des adultes. Hein. Enfin, nous, quand on regardait des séries pour le public adolescent, c'était toujours écrit, réalisé, produit par des adultes.
Ça l'est encore parfois. Hein. Il y a encore les paniques morales sont assez largement entretenues par certaines productions des industries culturelles qui montrent des adolescents qui ressemblent pas trop à ceux que vous voyez dans vos enquêtes, en fait, Claire Ballet.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, les enfants sont, voilà, le bébé qui naît va être filmé, son image va être partagée. Et en fait, la représentation du corps et de l'adolescent est dans les mains des parents pendant longtemps. Hein. Et même Bourdieu disait, le dominant est celui qui parvient à imposer les normes de sa propre perception. Donc, à l'adolescence, les jeunes, ils vont prendre le téléphone et ils vont prendre en main aussi la représentation d'eux-mêmes. Ils vont se filmer avec leurs amis, ils vont faire des bruits en TikTok, ils vont filmer leurs délires, en fait, ils vont faire des stories privées, ils vont faire des stories à la une. Et il y a tout un paramétrage, en fait, de ces publics en fonction, justement, de ces modalités de présentation de soi qui sont excessivement complexes. Et c'est ce que montre notamment, effectivement, l'article de Mariana Colella avec, en fait, une prise en main quelque part de cette représentation de soi, une auto-représentation en fait quelque part qui participe au processus d'autonomisation et du grandir adolescent.
Alors ça c'est l'article qui concerne au fond l'utilisation de ces réseaux pour la diffusion de productions culturelles autoproduite en quelque sorte et de présentation de soi ou de collectif par des adolescents. Mais il y a l'article de Noémie Rock qui s'intéresse plutôt à quelque chose peut-être au fond de plus classique, même s'il a pris une forme nouvelle, c'est-à-dire la manière dont on partage quand on est adolescent des vidéos YouTube, ben, au fond un peu comme on partageait autrefois de la musique en faisant des compilations sur des cassettes pour d'autres générations, et comment ces pratiques de partage de production culturelle qui cette fois ne sont pas produites par les adolescents, mais par les industries culturelles la plupart du temps, sont l'occasion de construire des modes de sociabilité entre pairs, en fait.
Oui, ça nourrit la sociabilité, ça nourrit le lien. Et puis, les cultures juvéniles fonctionnent beaucoup avec les références. Hein, et comme vous l'avez dit, c'était déjà le cas à l'époque. Il fallait voir tel ou tel film, il fallait connaître tel ou tel chanteur, musique, etc. Donc oui, la culture participe en fait aux sociabilités juvéniles depuis très longtemps. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de croisement en fait entre ces deux catégories finalement d'usage dont on parle, à la fois l'entretien du lien social. On va se filmer avec ses amis, on va inclure certains de ses amis et d'autres pas dans sa sto privée sur Snap, par exemple. Donc, il y a un travail justement de sélection des audiences. Et puis, il y a un travail aussi de consommation culturelle où on va regarder des vidéos faites par d'autres ou des séries Netflix, etc. Mais ensuite, ce qu'on va partager, en fait, on va soigneusement aussi sélectionner, parce qu'en entretien, les jeunes nous disent bien, oui, alors ça, j'ai choisi de partager à un tel parce que ça m'a fait penser, là, cette vidéo, par exemple, TikTok, elle m'a fait penser à ma meilleure amie parce qu'elle, c'est exactement ça. Donc, en fait, je partage à elle et effectivement, ça nourrit les sociabilités. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que c'est... Ces modes de partage sont encore plus directs, si vous voulez.
Alors voilà, ça c'est le dossier de Agora, c'est le numéro 101 de la revue Agora, qui est la revue publiée par l'INJEP, qui est l'institution qui s'intéresse à la jeunesse en France, qui est un service de recherche particulièrement intéressant, qui produit beaucoup d'études. Peut-être un mot pour terminer, Claire Ballet, parce que je le citais, vous dirigez le Media Lab à l'Université de Genève, on le connaît moins bien que celui qui existe à Paris à Sciences Po et qui a longtemps dirigé Bruno Latour, qui l'a créé, puis Dominique Cardon et maintenant Sylvain Parasi. Vous faites le même genre de travaux à Genève, à l'Université de Genève ?
Alors, on est aussi effectivement un institut qui s'intéresse beaucoup aux médias. On a un master qui s'appelle Communication et Culture Numérique. Après, on a cette spécificité effectivement d'être vraiment sur ces cultures numériques, c'est-à-dire un petit peu de comment est-ce que nos sociétés sont traversées, transformées par le numérique, mais d'un point de vue des approches assez... des pratiques culturelles, des environnements numériques, des communautés, aussi des résistances qui s'organisent aussi sur les réseaux sociaux. Donc on est beaucoup sur les usages. Et puis on va engager prochainement un ou une nouvelle professeure qui sera plutôt en étude des plateformes. Donc en fait, si vous voulez, c'est mes études à moi qui sont plus ancrées justement dans les usages et dans les modes de résistance par le bas. Et puis ensuite, on va accueillir un ou une professeure plus en étude des plateformes. Et puis on a mon collègue Tommaso Venturini aussi qui travaille aussi beaucoup sur les subcultures internet et les méthodes numériques. Donc voilà, c'est un institut de recherche et d'enseignement qui travaille sur les cultures numériques.
Et sur des sujets qu'on a bien besoin de documenter, parce que les choses bougent très très vite, évidemment, s'agissant de ces technologies et surtout, plus intéressant pour les sciences humaines et sociales, de leurs usages. Merci beaucoup. Je vous renvoie tous à ce numéro 101 de la revue Agora, référence aussi sur la page de l'émission où vous pouvez également écouter en streaming ou télécharger le podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.